WebESR, une conférence en ligne proposée par Amundi, épargne salariale et retraite. Comment aider chaque salarié à devenir un véritable épargnant? Une conférence animée par Fabrice Coustet.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire proposé par Amundi Épargne Salariale et Retraite. Alors vous le savez, on est en plein dans la semaine de l'épargne salariale et l'AFG, l'Association Française de la Gestion, vient de publier les résultats de son enquête annuelle et figurez-vous, bonne nouvelle, les statistiques sont en hausse et confirment l'intérêt croissant des Français pour ce mode d'épargne longue via leur entreprise. Pourtant, beaucoup, vous êtes sûrement beaucoup à vous interroger, que choisir entre la gestion pilotée, la gestion clé en main, comment mieux utiliser les simulateurs ou autres robots advisors, comment choisir les placements adaptés à votre situation, enfin comment trouver la bonne formation. C'est ce que nous allons voir avec nos experts, on va essayer de vous donner les clés, comment aider chaque salarié à devenir un véritable épargnant. On a le plaisir d'accueillir sur ce plateau les experts d'Amundi Épargne Salariale et Retraite. Corinne Labourex, bonjour. Vous êtes directrice donc marketing, épargne salariale et retraite. À vos côtés, Anthony Lapeyre. Bonjour Anthony.
Bonjour Fabrice, bonjour.
Vous êtes responsable de la gestion long terme et solutions retraite. En face de vous, Marie Brière. Bonjour. Bonjour Marie.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes responsable du centre de recherche aux investisseurs. Et enfin, Valérie Bardot, responsable formation ESR, épargne salariale et retraite. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors, on est ravis de vous accueillir. Vous le savez, c'est une conférence interactive, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je pense que ça se passe dans le chat. Hein. On va faire à peu près 45-50 minutes parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à se dire. Et puis, on prendra bien évidemment vos questions, mais n'hésitez pas à les poser tout au long de ce webinaire. On démarre donc tout de suite avec cette semaine de l'épargne salariale. Corinne Labourex, je vous laisse la parole. Un petit mot de contexte, là, cette semaine de l'épargne salariale, à quoi elle sert, à qui est-elle destinée?
Alors, oui, c'est une excellente question. Donc, on va rappeler que c'est la 5e édition de cette semaine de l'épargne salariale, qu'elle est, comme tu l'as rappelé, Fabrice, portée par l'AMF, par l'AFG, donc l'Association française de la gestion financière, qui regroupe tous les acteurs, en fait, de la gestion d'actifs, mais également par la Direction générale du travail, les directions du Trésor ou une association comme la Finance pour tous. Donc, en fait, c'est très collectif, tous les acteurs sont mobilisés et l'idée, c'était peut-être de faire découvrir, redécouvrir, même découvrir, finalement, une épargne de long terme qui est présente auprès de plus de 10 millions de personnes puisque aujourd'hui, elle concerne un peu plus de 11 millions de salariés et qui pourtant, finalement, reste relativement méconnue et mal utilisée. Et c'est le constat de départ qui a fait qu'on a lancé, en fait, tous ensemble cette semaine. Et cette semaine, eh bien, du coup, d'année en année, elle est de plus en plus riche, elle mobilise de plus en plus d'événements, d'acteurs. C'est un site également qu'il faut rappeler, qui est très pédagogique. Et ça permet petit à petit, à la fois aux entreprises, également aux épargnants, de se rendre compte qu'ils disposent d'une solution simple, très utile, pas très coûteuse, fiscalement intéressante, et qui permet, qu'on soit entreprise ou qu'on soit épargnant, de partager les fruits de la croissance de l'entreprise en ayant une épargne qui, effectivement, qui plus est, je dirais, sans douleur. C'est-à-dire que c'est pas une épargne, c'est pas un effort individuel, c'est porté, en fait, par un effort qui est au départ collectif, puisque c'est une épargne qui est constituée au sein de l'entreprise.
Voilà, le partage du profit, hein, on entend beaucoup parler. Pourtant, vous dites mal appréhendé, mal connu encore, malgré ces efforts de communication que les uns et les autres déploient.
Alors, les chiffres montrent que, justement, ils portent leurs fruits. Mais c'est vrai que, peut-être, le paradoxe de la situation, c'est que c'est une épargne, finalement, qui est un peu subie au départ. Lorsque vous avez la volonté d'épargner à titre individuel, vous allez voir votre banquier, votre conseiller, si vous en avez un, et vous faites un acte d'épargne volontaire. Là, très curieusement, il se trouve que cette épargne, en fait, elle est issue de sommes qui sont versées par l'entreprise, qui peuvent être, d'ailleurs, également abondées. Et peut-être parce que c'est un peu régulier ou parce que finalement l'acteur de départ qui est l'entreprise et qui tient l'initiative effectivement de ces flux d'épargne n'est pas le salarié ou la personne, l'individu lui-même, c'est un peu plus difficile en fait de passer à l'acte. Alors c'est un vrai faux, en fait, c'est un vrai faux contraste ou un vrai faux problème. Le sujet aussi, et je pense que c'est important de le dire, c'est que cette épargne, finalement, qui est constituée de façon collective et pas individuelle, et c'est ça qui fait la grosse différence, eh bien, pour certains, c'est la seule épargne. Et donc, ce sont également des personnes qui n'ont pas individuellement pris l'habitude ou eu la volonté d'épargner. Et donc, elles se retrouvent un peu démunies, au départ, face, en fait, à ces sommes qui leur sont effectivement données, pour pouvoir épargner de façon adaptée, en fait, à leur profil. Donc, c'est tout le travail d'acteurs comme nous, comme Amundi, et les, l'ensemble des acteurs de place, que d'aider l'ensemble des épargnants, salariés, ou même retraités, à justement valoriser cette épargne, oui, la rendre utile, permettre, en fait, tout simplement de porter, grâce à elle, des vrais projets.
Quelques chiffres justement sur cette épargne salariale, c'est des montants assez considérables. Le pointage au 31 décembre 2021 de l'AFG, c'est 167,6, donc près de 168 milliards d'euros d'encours identifiés sur les différents plans d'épargne salariale et retraite. C'est un bond de 14% en un an, les uns et les autres. Est-ce que la crise a changé quelque chose? Voilà, c'est une question un peu transverse avant d'attaquer les sujets techniques. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu peut-être une prise de conscience, Anthony?
Une prise de conscience, je pense que la crise sanitaire l'année 2020 avec le Covid a certainement à un moment donné un peu plus de temps aux épargnants pour se poser des questions. On a eu aussi à un moment donné, on va dire, un excédent d'épargne dans cette phase-là, puisque la consommation s'est arrêtée en partie en tout cas. Et du coup, on voit que dans la pratique, il y a eu plutôt un phénomène d'accélération dans la collecte des plans d'épargne salariale et de retraite.
C'est-à-dire les Français qui étaient déjà, on le sait, fourmis parmi les Européens, ont encore plus entassé dans les lessiveurs, entre guillemets. Et est-ce que du coup ça s'est vu, vous, dans vos chiffres de collecte, se dire, je vais rajouter un petit peu plus, je peux peut-être abonder un peu plus
Ce qui est certain, c'est que sur l'année 2020, alors j'ai pas le chiffre très exact, mais les taux d'épargne des ménages français dépassaient les 21% des revenus. Donc c'était vraiment colossal, c'était des plus historique. Et en termes de collecte, on voit, alors moi véritablement sur la partie des plans d'épargne retraite, on voit que on a eu une accélération depuis la mise en place du PER, qui correspond malgré tout un petit peu à la crise sanitaire, puisque c'était à l'été 2019. On voit que depuis 2 ans et demi que le PER a été mis en place suite à l'activation de la loi Pacte, que en fait on a globalement des PER au global qui ont atteint un volume d'actifs de 26 milliards d'euros et une très forte accélération puisqu'on a sur ces 2 ans et demi plus de 7 milliards d'euros de collecte. 7 milliards d'euros de collecte alors que, pour donner un ordre de grandeur, le PERCO qui dans les faits, donc la version collective de l'épargne retraite précédente qui existait dans les faits depuis 2003, avait atteint en fait 19 milliards depuis 2003, là en 2 ans et demi. En fait, on a vraiment plus de 7 milliards d'euros d'épargne nouvelle dans les plans d'épargne retraite. Donc, en ordre de grandeur, on voit cette accélération colossale sur les 2 ans et demi qu'on vient de passer.
Ouais, un véritable carton sur ce plan d'épargne retraite. Après, les anciens dispositifs, c'est sorti en rente. C'est vrai que les Français étaient un petit peu allergiques à ce genre de choses. Corinne, justement, on se pose la question sur les particularités de votre métier, on va dire, par rapport aux banquiers ou conseillers en gestion de patrimoine. Là, l'accompagnement, il est quand même très différent, puisqu'on est sur, vous l'avez dit, des épargnants un petit peu contraint, en tout cas qui bénéficie de cette épargne. C'est pas forcément une démarche proactive où on se dit j'ai un peu d'épargne, je vais voir un conseiller, je vais voir mon banquier pour aller voir les placements. Là, vous devez accompagner des salariés qui sont finalement, j'allais dire, comme Monsieur Jourdain, épargnants malgré eux.
Oui, c'est un petit peu ça, c'est exactement l'image. Donc effectivement, il y a une différence. Alors on le disait tout à l'heure, dans une démarche volontaire, vous êtes dans une relation à deux, c'est en fait un prestataire financier et puis un particulier qui vient épargner. En épargne salariale, j'allais dire, c'est un peu un ménage à trois, parce que vous avez à la fois un salarié, son entreprise, et puis des acteurs comme nous, Amundi, qui proposons en fait un ensemble de gammes, à la fois de produits d'épargne, bien sûr, et de services qui les accompagnent. Donc le sujet, c'est en fait d'être extrêmement pédagogique pour pouvoir faire comprendre toute l'utilité qu'il a épargnée et puis aider assez rapidement, effectivement, chacun à choisir ses placements de façon simple et adaptée. Et ça passe en fait par de multiples canaux. Il y a bien sûr toute la partie digitale, et Dieu sait si notre métier est extrêmement digitalisé, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais le digital, c'est un moyen qui est extrêmement efficace pour pouvoir donner de l'information et accompagner de pas à pas chacun des épargnants, mais c'est également former, on y reviendra sans doute tout à l'heure, et c'est arriver en fait à pousser les bonnes informations au bon moment, et donner des outils simples qui permettent en fait de se projeter et je dirais de limiter l'anxiété qu'on peut avoir à placer ou à gérer financièrement de l'épargne, alors que c'est pas un acte facile en soi déjà dans l'absolu et que c'est pas un acte auquel on est habitué puisque on le rappelait, les populations d'épargnants sont très différentes et on va trouver en épargne salariale des gens tout à fait novices comme des gens un peu plus initiés effectivement à la mécanique ou à l'exercice d'épargner et d'investir. Donc toute la difficulté ça va être effectivement de pousser des bons messages en fonction des différents types et des différents scénarios en fait d'épargne qu'on va trouver dans nos métiers. Mmh. Et de ce point de vue là l'aspect digital est essentiel parce qu'il offre une puissance de communication et une capacité de personnalisation qu'on trouve nulle part ailleurs. Alors il n'y a pas que le digital, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais effectivement c'est une clé essentielle.
Digital, formation, alors on va continuer sur ces sujets évidemment, on va quand même donner la parole aussi à Marie Brière et à Valérie Bardot. Alors Marie Brière, justement, centre de recherche aux investisseurs, le digital c'est vrai qu'il a fait une entrée fracassante un petit peu dans tous les domaines et ça touche bien sûr l'épargne salariale et retraite. Comment on fait aujourd'hui pour mieux parler justement, mieux former aussi, on va le voir dans un instant, ces épargnants qui bénéficient de cette épargne et qui sont des fois parfois un peu démunis?
Oui, c'est une très bonne question, Fabrice. Comme disait Corinne, le conseil est clé. Certains épargnants sont démunis, ne sont pas des spécialistes de la finance, et donc il est extrêmement important. Et ça, d'ailleurs, on le voit au-delà de l'épargne salariale. En fait, le conseil financier est extrêmement important. La plupart des gens, quand ils prennent une décision d'investissement, ils le font parce qu'ils ont été conseillés par leur banquier, etc. Et ce qu'on voit aussi, là aussi au-delà de l'épargne salariale, c'est que l'accès au conseil financier est très inégal, en fait. Hein. Donc, plus vous avez un patrimoine important et plus vous avez accès à du conseil personnalisé, adéquat, etc. Et plus vous êtes sollicité, oui, tout à fait. Et donc, on parlait de digitalisation, je pense que le gros intérêt et le gros atout de la digitalisation, c'est de permettre un accès à des catégories de population qui n'auraient pas accès à du conseil financier, de leur permettre d'avoir cet accès de façon simple, personnalisée, comme disait Corinne, à du conseil financier. Alors c'est tout l'attrait de ce qu'on appelle les robots advisors, hein, donc c'est un nom qui peut faire peur, mais c'est simplement du conseil robotisé, enfin du conseil automatisé, dont le principal atout est de permettre l'accès au plus grand nombre, de manière équitable, sans biais. Parce que là aussi, il y a beaucoup de travaux scientifiques qui montrent que le conseil humain a tendance à être biaisé. Certaines catégories de population sont mieux traitées. Par exemple, les hommes sont mieux traités que les femmes et les jeunes, par exemple. Il y a des travaux scientifiques qui le montrent. On leur pose plus de questions sur leur situation financière, etc. Donc, le robot permet cette égalité de traitement. Il donne l'accès à tous.
Le robot, il pose les mêmes questions. Voilà. Il s'en fiche, de toute façon.
À chacun, il pose les mêmes questions sur sa situation personnelle et il va adapter le conseil. Donc, il va vous proposer en fait une allocation d'actifs personnalisée en fonction de vos caractéristiques personnelles et de votre situation financière personnelle. Donc ça, c'est vraiment un atout majeur, je dirais, des outils digitaux. Et je pense qu'on va voir leur développement dans les prochaines années.
Voilà, alors il y a un doute qui peut subsister. Effectivement, le robot, même s'il est neutre, est-ce qu'il va donner la même qualité de conseil finalement que ce qu'on pourrait avoir en expliquant sa situation à quelqu'un, à un conseiller vivant, humain, on va dire? Il peut y avoir ce doute. On ne se doute pas qu'ils vont être bien programmés, etc. Des algorithmes, des choses très compliquées, de l'intelligence artificielle. Mais est-ce que finalement le robot, il va vraiment s'adapter à mes besoins?
Alors c'est une grande question. Donc pour pouvoir répondre scientifiquement à votre question, il faudrait comparer un conseiller humain et un conseiller robotisé sur la même population. Ce type d'étude-là n'existe pas malheureusement, mais c'est vraiment une question importante. Ce que nous on a constaté, parce qu'on a quand même conduit deux études scientifiques sur l'impact du robot advisor d'Amundi dans le cadre de l'épargne salariale, on a constaté qu'il améliorait la situation des gens. En moyenne, les gens les gens qui ont souscrit au robot ont eu une performance supérieure à ceux qui n'y avaient pas souscrit. La manière dont on a procédé, c'est qu'on a considéré en fait la population des gens qui avaient pris le robot et on l'a comparé à une population test, enfin plusieurs types de populations test d'ailleurs, de gens qui n'avaient pas pris le robot et on a comparé en différence en fait comment la situation de ces gens avait évolué, leur situation financière. Et ce qu'on a constaté, c'est une amélioration de la performance sur la période qu'on a étudiée, en moyenne de 3% hein, de rendement annualisé, ce qui est pas négligeable, et qui est dû à deux facteurs importants. Le premier, c'est une meilleure diversification via un investissement en actions plus important. Les gens, en moyenne, ont augmenté leur allocation au marché actions de 9%. Ce qui est énorme, hein, parce que si vous regardez, donc là c'est hors actionnariat salarié, hein, le robot ne touche pas l'actionnariat salarié, et les gens n'ont pas modifié leur allocation, mais si vous regardez l'investissement en actions via des fonds actions diversifiés ou via des fonds diversifiés, hein, vous rendez compte que lorsque vous cumulez les deux, c'est plus 9% d'actions. Donc ça a permis sur la période qu'on
donc
a
étudiée. Donc plus d'actions et donc sur les dernières années, plus de performance.
Donc ça, c'est la première source, le premier moteur de performance. Et le deuxième, qui est très important, c'est le rebalancement. En fait, on ne rebalance pas spontanément son portefeuille. Alors, rebalancer, ça veut dire, lorsque vous avez une allocation optimale, hein, telle que définie par exemple par le robot advisor, c'est revenir à ses poids optimaux, de manière dynamique dans le temps. Ce qu'on fait spontanément, c'est en général on ne fait rien. C'est-à-dire qu'on laisse évoluer son portefeuille.
Donc on donne un exemple. Si on est en action et qu'on a mis, on va parler en grande masse, je sais pas, 50% d'actions France, 25% d'actions américaines et puis 25% d'obligations.
Oui.
Même si la France va surperformer à un moment ou les États-Unis, on va pas toucher à l'allocation alors qu'il faudrait la repondérer, c'est ça ?
Exactement.
Le robot en permanence vous dit ce qu'il faut faire ?
Il calcule
automatiquement.
C'est un gros intérêt du robot advisor, c'est d'envoyer des alertes, c'est-à-dire de vous dire attention, vous n'avez rien fait, votre allocation est en train de dériver, hein, et donc vous devriez revenir sur ces poids optimaux. C'est une grosse source de performance. Hein, les investisseurs institutionnels le savent, Anthony pourra vous le dire. Les gros investisseurs institutionnels rebalancent leur portefeuille sur des poids qu'ils ont déterminés, mais les particuliers, faute de temps, d'attention à leur épargne, de connaissances aussi sur la manière de le faire, ne le font pas spontanément. Le robot leur permet, via ces alertes, de rebalancer. Et ce qu'on a trouvé dans cette étude, c'est que les deux tiers de l'amélioration de la performance, donc je vous parlais de 3%, sur les 3%, 2%, hein, donc les deux tiers sont expliqués par cette dynamique de rebalancement que les gens ont mis en place avec le robot.
Alors effectivement, Anthony, peut-être vous pouvez compléter, mais c'est vrai qu'on dit souvent, hein, ça c'est la théorie financière, que c'est pas la peine de chercher le point bas du marché et le point haut, on l'a bien vu avec les événements récents où le marché est extrêmement volatile. En revanche, ce qui fait la performance sur long terme, c'est l'allocation et du coup aussi d'avoir cette allocation un petit peu optimale.
C'est l'allocation et les clés à long terme pour délivrer une performance efficace, c'est surtout d'investir régulièrement aussi. Déjà, la première base, je dirais, la première clé, c'est investir régulièrement. C'est en effet rebalancer son allocation pour se recalibrer sur l'allocation qui est théoriquement efficiente, efficace pour créer le plus de valeur à long terme. C'est aussi, quand on est dans une épargne longue, cet aspect de régulier, il est aussi en lien avec une proportion du revenu. Donc théoriquement, il faut investir constamment en proportion de son revenu à long terme. Et puis, c'est pour éviter d'avoir après des impacts psychologiques dans la gestion de son allocation, c'est vraiment investir en fonction de son aversion individuelle au risque. Et tout ça, tous ces éléments, en fait, c'est des choses qui sont embarquées automatiquement dans un robot advisor et aussi dans la gestion pilotée historiquement. Donc c'est véritablement, concrètement, la gestion pilotée, c'est le niveau 1 d'un robot calibré pour l'épargne à long terme, si vous voulez. Donc c'est véritablement le lien avec la logique de cet investissement de long terme, la gestion pilotée, via son intégration dans les PER comme le plan d'investissement par défaut. Elle a également permis de pousser de l'épargne qui était investie sur du monétaire, comme le disait Marie tout à l'heure avec le robot advisor, vers un peu plus d'actions en moyenne. Et donc, elle donne accès à des espérances de rendement supérieures à ce qu'on avait historiquement dans ces plans-là.
D'accord.
Donc,
alors, Anthony Lapeyre, je suis responsable gestion long terme, meurt d'envie de nous parler de sa gestion pilotée. On va d'abord faire un petit détour sur la formation. En tout cas, deux enseignements déjà, un petit peu, on arrive bientôt à la moitié de ce webinaire, c'est le robot. Si on peut, il faut au maximum l'utiliser, un delta de performance. Je me mets à la place de ceux qui nous écoutent ce matin et qui cherchent des infos. Déjà, c'est pas mal. On sait que ces outils existent, fonctionnent, s'ils vous sont proposés. Autant les utiliser, il y a vraiment, plutôt que de ne rien faire. Je pense que l'immobilisme, c'est la pire des choses pour son épargne, surtout en ce moment. On va s'intéresser, juste après on repassera sur la gestion pilotée, bien évidemment. Je voudrais faire un détour sur la formation avec vous, Valérie Bardoux. Donc, vous êtes responsable de la formation épargne salariale et retraite, une activité qui a été créée en 2013, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait.
Parce qu'il y a une demande croissante de la part des entreprises, on le voit, hein, on est bien sûr dans la pédagogie ce matin, face à voilà, on le disait, à ces épargnants qui disent « mais voilà, c'est super de recevoir cette épargne, ce partage du profit de l'entreprise, mais qu'est-ce que j'en fais ?» Et du coup, vous êtes armé pour mieux conseiller les entreprises.
Oui, tout à fait. La formation, c'est en quelque sorte un préalable. Vous le disiez, hein, tout le monde n'est pas un familier des marchés financiers, de la finance.
Alors, ni des marchés financiers, excusez-moi, mais ni non plus de l'informatique, où ça peut paraître un petit peu complexe.
Exactement. Et je dirais, la formation, elle va vraiment travailler sur la confiance, en fait. Apprendre à se faire confiance. Parce que finalement, utiliser un robot, ça peut faire peur. Qu'on ne sait pas très bien les algorithmes, etc. Est-ce que ça marche vraiment ? Bon, il y a des études scientifiques et heureusement, elles viennent conforter, je dirais, les gens qui font ces choix. Mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin de s'approprier la matière. Et ça, c'est important parce qu'en formation, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir finalement les logiques qui sont derrière ces robots, derrière l'évolution des marchés financiers. Et ça, c'est très, très important. C'est prendre confiance, se poser les bonnes questions pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et encore plus que la confiance, c'est l'envie. Parce que quand on comprend quelque chose, eh bien, on commence à avoir envie d'appliquer. Et je dirais que la formation, nous, on va travailler sur ces deux choses. La confiance et l'envie.
Alors, avec des méthodes pédagogiques que vous allez nous détailler, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que, comme dans beaucoup d'entreprises, les gens sont très occupés, on a des réunions dans tous les sens, et paf, on vous dit, voilà, vous avez une formation d'un jour sur tel sujet, en plus épargne, salariale et retraite. Bon, après, de prime abord, j'imagine certains vont traîner un petit peu des pieds, ces journées de formation, elles sont toujours un peu compliquées. Vous essayez de les rendre le plus intéressante possible et vous exigez même que les gens soient alors présents, bon, il y a aussi des dispositifs digitaux, mais présents pendant toute une journée. C'est bien
oui.
ça ? Expliquez-nous.
Oui, pourquoi ? Parce que on va travailler sur ce qu'on appelle de la pédagogie inversée, c'est-à-dire que c'est les apprenants, les stagiaires, qui vont construire la matière dont ils ont besoin. Donc tout ça se fait à partir de cas concrets, d'exercices, de jeux de rôle, de mise en situation. Et pour ce faire, on va avoir besoin d'une journée, je dirais, pour installer cette dynamique. Parce que c'est aussi une dynamique de groupe. Chacun est là pour apporter son expérience, pour poser ses questions sans tabou. Et les participants sont aussi là pour s'enrichir les uns les autres. Donc ça, c'est vraiment fondamental.
Donc, vous allez, durant cette journée, démystifier un peu la finance. Hein. Certains sont dans des métiers complètement différents, peut-être n'en ont jamais entendu parler, ou en tout cas, s'y intéressent peut-être pas assez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, au dites de cette journée, en fait, souvent, certains ont envie de continuer.
Ah oui, oui, oui. Les gens découvrent en fait que la bourse, les placements financiers, ça peut être passionnant. Ce qui compte aussi, c'est que nos formateurs sont vraiment tous des professionnels.
Alors, parlez-nous de ces formateurs.
De l'épargne salariale.
Voilà. C'est des. Oui. C'est qui ces formateurs ?
Alors, justement, c'est tous des professionnels de l'épargne salariale qui travaillent chez Amundi et qui sont volontaires pour animer ces formations. Bien sûr, ils sont formés à ces techniques de pédagogie, mais surtout, ils ont un grand plaisir à transmettre leur engagement dans leur métier, leur passion de leur métier. Donc, je dirais que ces formations, qu'elles soient en présentiel ou à distance, puisque nous offrons les deux, sont un partage du métier et de l'implication nécessaire à la fois du côté du participant et du côté du formateur. Donc ça, c'est vraiment essentiel, c'est basé sur de l'échange.
L'échange, et bien sûr, c'est très utile. On imagine qu'on démonte aussi les a priori, les préjugés qu'on peut avoir sur la finance. C'est compliqué, on n'y comprend rien, il y a du jargon. L'idée, c'est aussi de donner envie aux salariés de se former.
Oui, exactement, parce que comme le but du jeu, c'est que les participants fassent des exercices, en fait, ils vont découvrir qu'ils sont capables de trouver les solutions eux-mêmes. Donc, du coup, les a priori tombent. On en sort en disant, finalement, je suis capable de faire. Et non seulement je suis capable de faire, mais ça m'intéresse. Donc, on passe, comme le disait Corinne tout à l'heure, d'un statut un peu passif de l'épargnant salarié qui reçoit les versements de l'entreprise, qui les place parce que c'est financièrement attractif, fiscalement, socialement attractif, mais qui finalement n'est pas totalement acteur. Donc on fait tomber toutes ces barrières, on donne les clés, on donne l'envie, et après, il pourra mieux se servir du robot advisor, il pourra mieux lire les plaquettes d'informations que fournit son entreprise, il pourra mieux décrypter les fiches de reporting que nous mettons, nous, Amundi, sur les sites d'épargne salariale, accessibles aux salariés. Donc, il va devenir capable de se servir de tout ce dont il a à disposition, parce que en formation, il l'aura fait lui-même.
Alors, j'entends dans votre discours, alors c'est peut-être une déformation, mais il ou elle, parce qu'on le sait, les femmes aussi souvent se disent, c'est pas qu'elles n'en sont pas capables, mais elles se disent, c'est pas ma compétence, c'est plutôt peut-être mon mari qui s'occupe des affaires financières, etc. Là, les salariés EES, bien sûr, tout le monde s'est ouvert à tout le monde, et elles ont la capacité de reprendre la main sur cette épargne, et même d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses.
Ah oui, c'est une épargne individuelle, comme le dit Corinne, donc c'est pas une question de sexe, c'est son épargne, et c'est ça qui est fondamental, il faut que les salariés aient bien conscience que c'est leur argent. Alors c'est un produit sensible, l'argent, c'est pas un produit comme
bien
un
sûr.
Autre, ils ont des décisions à prendre, donc il faut qu'ils se sentent en confiance, qu'ils comprennent les mécanismes qui sont derrière. Et en plus, c'est passionnant parce que les marchés financiers, en fait, ça touche notre vie de tous les jours. On voit que la crise sanitaire, a eu des conséquences et une crise financière aussi derrière. On se rend compte que la guerre en Ukraine, ça a de l'impact sur les marchés financiers. Donc, en fait, les marchés financiers, on le vit tous les jours en tant qu'épargnant, et c'est ce qu'ils peuvent découvrir dans nos formations, justement à travers tous ces cas réels qu'on traite avec eux, et du coup, ils se disent « pourquoi pas ?»
Ouais, je crois que le rapport avec l'économie, on s'en rend bien compte quand on passe à la pompe, en ce moment, pour tous nos concitoyens.
Exactement, tout à fait.
Avec le prix de l'essence qui a bondi, mais c'est un autre sujet. Alors, cette formation, on l'a compris, donc présentielle pour certains, avec des formateurs, Et puis, il y a aussi la formation digitale, le fameux MOOC, alors là aussi, acronyme Massive Online Courses, c'est des cours en ligne, finalement. On a le choix, comment ça se passe pour ceux, parce qu'on imagine que ça a été, évidemment, la formule employée beaucoup ces deux dernières années.
Alors, on a fait beaucoup, effectivement, de formations à distance sous forme de classes virtuelles. Et là, on va traiter des petits groupes, parce que pour maintenir cette activité, ces échanges dont je vous parlais, il est absolument nécessaire d'avoir des tout petits groupes. Donc, une dizaine de personnes, pas plus, en classe virtuelle, avec toujours deux formateurs. Ça, c'est extrêmement important, justement pour l'interactivité et pour l'échange d'expériences. Parce que je vous disais que ces formateurs sont des professionnels de l'épargne salariale, mais ils viennent de métiers différents. On peut avoir des gérants, comme Anthony, on peut avoir des gens du marketing, on peut avoir des chargés d'affaires, on a des juristes. On a même des informaticiens qui s'occupent des sites de tenue de compte, donc des sites, des comptes des salariés. Donc, chaque formateur va pouvoir apporter son expérience personnelle et échanger avec les participants. Donc, c'est d'autant plus riche. Voilà. Donc, on a cette première formule, à distance. Et on a, comme vous le dites, Fabrice, le MOOC, qui est donc une plateforme sur laquelle les salariés vont pouvoir se connecter sur une durée donnée. parce que l'idée, c'est que cette plateforme soit animée par des formateurs. Mmh. Donc, ce n'est pas de l'e-learning. Hein. On n'est pas tout seul devant son petit ordinateur. Non, on fait partie d'une communauté d'apprenants qui sont guidés par des formateurs. Et donc, on a un forum sur lequel on peut déposer ses questions, solliciter les formateurs, échanger même avec d'autres participants, le cas échéant. Et des petits challenges peuvent être organisés aussi sur ces forums.
D'accord. En tout cas, on est toujours accompagné, on l'a compris. Oui. Voilà, on n'est pas en e-learning pur.
Exactement.
Et ça, on sait que c'est très important d'avoir un groupe, effectivement, d'apprenants. Anthony, tiens, on vous citait, vous avez fait partie de ces formateurs, pas encore ?
Alors, j'ai pas encore eu cette chance, mais j'ai des collègues, en effet, qui ont participé régulièrement et assidûment à ces formations, et les retours sont extrêmement positifs. La qualité de l'échange est très, très bon niveau. Et donc, on comprend aisément pourquoi
les retours salariés sont très très
bons. Bientôt, dans la prochaine promotion. Avec grand plaisir.
Alors, Corinne y a participé.
J'y ai participé, oui. Avec grand plaisir. J'ai notamment participé à une formation sur la retraite, parce qu'on ne parle pas que de gestion financière. Et effectivement, c'est très utile parce que ça permet, d'abord, on est dans un contexte effectivement collectif, de groupe, donc on comprend les angles d'attaque, en fait, où les angles d'interrogation ne sont pas les mêmes selon les personnes, donc c'est très enrichissant, c'est très interactif, et ça permet justement de s'approprier ces questions-là à titre personnel, et de se poser des questions qu'on ne s'est jamais posées. Je prends juste un exemple. Mmh. Sans dévoiler le contenu de la formation, on commence par se poser une question simple, c'est... En fait, quels sont mes besoins à la retraite ? C'est, en fait, qu'est-ce que je vais devoir dépenser quand je serai à la retraite ? Et c'est une vraie surprise. On s'aperçoit, en fait, qu'on a beaucoup de dépenses. Et ça permet de mieux se poser, ensuite, la question de, mais finalement, quel revenu, en fait, je vais avoir besoin de construire pour pouvoir prendre une retraite agréable, utile, active. Et ces questions-là, elles viennent très naturellement. Et on en sort, honnêtement, avec une vision et des projets transformés.
Bon, donc très pratico-pratique, on l'a compris. Pour alors j'imagine il y a beaucoup d'épargnants qui nous regardent, mais aussi peut-être des directeurs des ressources humaines. Comment on met ça en place pratiquement? On appelle Amundi. Si on veut avoir des formateurs qui viennent ou mettre ces dispositifs en ligne.
Alors on est déclaré organisme de formation.
Oui.
Hein, donc, on fait des conventions de formation avec les entreprises qui souhaitent former leurs salariés, mais aussi les membres de la direction épargne salariale, par exemple, ou alors qui souhaitent former les membres des conseils de surveillance des fonds d'épargne salariale, voire leurs salariés. Hein, donc, on a vraiment, je dirais, plusieurs cibles. Et les entreprises vont nous contacter et nous dire, ben voilà, je souhaite mettre une formation à disposition de telle catégorie de salariés dans mon entreprise. Et qu'est-ce que vous me proposez? Voilà, je suis en province, donc j'aimerais bien du présentiel. Est-ce que vous êtes prêt à venir? Oui, bien sûr, nous venons organiser cette formation chez vous.
Voilà.
Ou dans nos locaux, etc. Donc, c'est avec l'entreprise que nous allons décider du format et de la mise en place.
Voilà, 24 formateurs professionnels dans votre équipe, Valérie. 160 formations par an et déjà près de 4500 personnes formées. Et peut-être, en ce moment, il y en a qui sont en train de plancher, justement, sur ces problématiques. Allez, sans transition, on passe à la gestion pilotée. Anthony, là aussi, c'est une question qui revient souvent. C'est d'ailleurs dans la droite ligne, une fois qu'on a élaboré un petit peu plus sur peut-être ce qu'on va faire, ses objectifs, etc. C'est vrai qu'il y a plusieurs formules, dont cette gestion pilotée, cette gestion à la carte. Racontez-nous un peu les différents modules ou les choix qui peuvent s'offrir aux salariés, souvent qui sont méconnus.
Alors, la gestion pilotée, c'est une méthode d'investissement, en fait, qui se base sur les bonnes pratiques qu'on a commencé à évoquer avec Marie tout à l'heure. C'est une méthode qui va embarquer le fait de, dans un plan d'épargne de retraite, donc recevoir des flux régulièrement, les investir de manière adéquate par rapport à l'horizon d'investissement, par rapport au niveau d'aversion au risque de chaque individu, et puis appliquer ces rebalancements réguliers qu'évoquait Marie, qui sont en effet un élément capital à long terme, qui ont un impact très important en fait sur le risque que l'on porte sur le capital à l'horizon retraite, par exemple. Et donc, cette méthode d'investissement, Elle existe depuis très longtemps chez Amundi, on l'applique dans les PERCO depuis 2003, dans les faits. Elle a été instituée comme véritablement méthode par défaut depuis la loi Pacte, un peu avant, en fait, depuis 2016. Mais elle a été surtout mise comme méthode par défaut sur un profil de risque équilibré, et ça je vais y revenir, mais c'est un élément important, depuis la loi PAC, donc en 2019.
D'accord. Et donc ça veut dire que notamment sur ces plans d'épargne retraite dont on parlait, on sent qu'ils en vont en coupe, si on démarre et qu'on ouvre son PER, on peut comme ça, quelles vont être les options? En général, c'est équilibré, dynamique.
Il y a un petit questionnaire qui reprend des éléments en fait, qui sont des questionnaires du robot advisor aussi, hein, et qui va calibrer en fait la version au risque de l'individu et du coup lui proposer soit un profil relativement prudent, soit un profil équilibré. Par défaut aujourd'hui, s'il n'y a aucun questionnaire de rempli, on sera équilibré, donc ça c'est la nouveauté avec la loi Pacte. Et puis on peut être beaucoup plus dynamique dans l'état d'esprit et donc on peut avoir un profil dynamique. Donc on a ces trois niveaux de risque et puis après la gestion pilotée, tout ce qu'elle fait en fait c'est calibrer l'allocation de manière théoriquement adéquate par rapport à l'horizon de placement. L'horizon de placement, par défaut, c'est la retraite dans un PER, mais ça peut être aussi un projet personnel, typiquement l'acquisition de la résidence principale. Donc, cette méthode, elle permet de maintenir une allocation relativement élevée en actions, on va dire, pour schématiser un petit peu quand on est loin de son horizon, et puis désensibiliser au risque boursier au fur et à mesure qu'on approche de son horizon. Et on va sécuriser de cette manière-là
donc
le capital
horizon,
qu'on a accumulé.
C'est soit son objectif, par exemple, résidence principale, où on se dit, bah, tiens, je vais devenir propriétaire dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, ou bien ça peut être la retraite, et à ce moment-là, ça sera beaucoup plus long, mais ça va être protégé plus on approche de l'âge de la retraite.
Exactement. Le mécanisme de la gestion pilotée, c'est simplement de faire fondre le risque au fur et à mesure qu'on approche de l'horizon. Donc c'est assez basique. La logique le mécanisme derrière est assez similaire à ce qui est appliqué dans un robot advisor. La différence, c'est que la gestion pilotée, elle est vraiment adaptée pour un horizon très long. Voilà, quand on est à plus de 15 ans de son horizon retraite, typiquement, la gestion pilotée, c'est parfait. Et c'est pour ça que ça a été défini comme le standard de l'épargne retraite. Et donc, on voit que, et ça nous permet de faire le lien avec un élément qu'évoquait Valérie tout à l'heure, sur la conjoncture, l'évolution économique, etc. On voit que le gros sujet, quand on est sur une épargne longue, c'est pas seulement de délivrer un rendement, c'est de délivrer un rendement qui préserve notre pouvoir d'achat futur. Donc, ça fait le lien avec l'inflation, avec les prix à la pompe aujourd'hui, etc. Mmh. Et donc, quand on raisonne sur un investissement à 20 ans, objectivement, quelle est la méthode adéquate pour garantir que notre capital en euros dans 20 ans sera effectivement efficace pour payer nos besoins de retraite? Eh ben, véritablement, on voit que la gestion pilotée, elle est très efficace pour faire cela. Elle est très efficace à travers les cycles. Et ça, on pourra le voir tout à l'heure. On a des chiffres historiques qu'on a reconstitués depuis les années 70. On a vraiment une méthode qui délivre un rendement réel, donc corrigé de l'inflation, extrêmement régulier.
Alors justement, c'est important d'avoir des exemples de la performance des marchés, puisqu'on sait, on connaît des crises, on dit souvent que le marché est très volatile. Est-ce que dans le temps, c'est une méthode qui a fait ses preuves, Anthony?
Alors clairement, hein, on pourra voir sur la slide qu'on a communiqué, on a des taux de rendement internes pour cette gestion pilotée, donc sur un profil équilibre. Là, vous avez l'exemple d'un profil équilibre sur la courbe orange, qui, pour des personnes qui ont investi régulièrement dans leur PER, donc là, on a reconstitué en fait tout ce qui s'est passé pour une personne qui investissait à 20 ans.
D'accord.
Depuis 1975 au début.
Ouais, alors donc, énorme.
Au début de la courbe, en fait, on a la personne qui investit, c'est un exemple, donc c'est 1000 euros par an pendant 20 ans entre 75 et 95. À l'époque, donc on avait quand même des taux de rendement sur le marché obligataire de l'ordre de 8% dans les années 80.
Mais
on avait des niveaux d'inflation à plus de 6% en moyenne sur la période. C'est ce qu'on voit là sur la courbe grise. Vous avez la courbe de l'inflation, donc qui était en moyenne à peu près à 6% sur cette période-là. Vous voyez que la gestion pilotée, à cette époque-là, elle aurait délivré, je dirais, près de 13,5% de performance. Les marchés monétaires, qui sont matérialisés en bleu clair, ils étaient un peu au-dessus de l'inflation. Donc, ils nous permettaient d'amortir, malgré tout, les niveaux d'inflation extrêmement élevés. Tout simplement parce que les taux étaient assez élevés à ce niveau-là. Et on peut mentionner, d'ailleurs, que pendant longtemps, les fonds monétaires jouaient ce rôle d'amortissement de l'inflation. Par contre, si on regarde les périodes beaucoup plus récentes, on voit que la courbe bleue, elle passe au-dessous de la courbe grise. Et là, on est vraiment dans un cadre où le niveau des rendements sur les marchés obligataires, de manière générale, ne permet plus du tout de compenser la dynamique d'inflation, sachant que cette dynamique d'inflation, on le voit à peine là, sur la fin du slide, mais est en forte augmentation. Alors, c'était déjà le cas post-crise sanitaire, mais avec la crise russo-ukrainienne, c'est d'autant plus violent dernièrement. On le voit à la pompe tous les jours. Et on voit que, quels que soient les cycles qu'on a pu traverser avec des crises majeures, que ce soit l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000, la grande crise financière
le choc
en
2008,
2007-2008 avec la crise des subprimes, faillite de Lehman Brothers fin 2008, que ce soit la crise des dettes souveraines en zone euro au début des années 2010.
2011-2012, oui.
Ouais, et puis évidemment la crise sanitaire, puis le choc russo-ukrainien dernièrement, qui sont des exemples où les marchés actions ont fortement baissé. Là, les derniers chiffres, ils sont arrêtés à hier, concrètement. Donc, c'est extrêmement à jour comme graphique. Vous voyez que donc, la gestion pilotée, aujourd'hui, sur les 20 dernières années, sur ce cycle d'investissement, elle a délivré 5,19% de performance moyenne, voilà, de performance moyenne pour la personne qui a joué le jeu d'investir 1 000 euros par an régulièrement.
Ouais, donc, de rester, et puis surtout de rester investi, quelles que soient les configurations du marché, de faire confiance finalement au retour à la moyenne.
Faire confiance à la méthode, exactement. Et ça veut dire quoi, hein, concrètement? Ça veut dire que la personne qui a commencé à investir là en 2002, elle investissait plutôt sur une allocation avec beaucoup d'actions, de l'ordre de quasiment 80% d'actions. Et par contre, mécaniquement, ce qu'on voit dans ces chiffres, c'est qu'aujourd'hui, cette personne-là, elle atteint son horizon retraite. Donc aujourd'hui, elle a quasiment que du monétaire ou de l'obligataire dans son allocation. Tout est, est pris en compte dans ces chiffres-là. Et on voit en tout cas, c'est là où je voulais en venir, c'est la prime, je dirais, de performance par rapport au niveau d'inflation est certes un peu plus basse que ce qu'on avait dans les années 90, mais malgré tout assez constante. Et c'est ça la vraie vertu de la méthode, à mon avis, à très long terme.
Voilà. Donc voilà pour ces outils. Là aussi, on est convaincus. On voit qu'on a quand même, Corinne Lavoureux, un large éventail de plus en plus d'outils, on le disait. Alors, outre la formation, qui est un bon point d'entrée déjà pour comprendre et avoir, je dirais, la big picture, c'est-à-dire où on va, qu'est-ce qu'on veut, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on espère ou qu'est-ce qu'on peut préparer pour sa retraite, on voit entre le robot advisor, la gestion pilotée, la connaissance qu'on peut avoir, on peut devenir finalement reprendre la main sur son épargne.
Oui, tout à fait. Je pense que tu le dis très justement. Tout ça, c'est complètement articulé. C'est tout à fait complémentaire. Les outils qu'on propose à travers la gestion pilotée, le robot ou encore, par exemple, le bilan retraite, hein, qui permet aussi de se projeter pour ce type de projet, ils ont une finalité simple. C'est de permettre justement de comprendre les ressorts de sa propre décision, de ses propres envies et de pouvoir se projeter simplement et prendre des décisions simples. Donc, tout le travail qu'on fait à travers ces outils qui ont effectivement un socle digital, et rappelons-le, ça n'est pas une finalité, le digital c'est juste un moyen, le digital c'est juste un facilitateur, mais tous ces outils, ils ont cette vertu en fait de pouvoir être d'abord, consultés à tout moment. Donc l'épargnant, il a une question, il se pose une question, il peut aller effectivement sur ces outils facilement. Ils ont tous une dimension de simulation. Donc ça permet effectivement de tester soi-même différentes situations, de s'interroger simplement. Et puis, ils s'adaptent, en fait, ils sont personnalisés. Donc en fonction des réponses qu'on va apporter à des séries de questions, ils vont délivrer une réponse adaptée. On va reprendre l'exemple du robot, on se profile, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier quelle est son aversion plus ou moins forte au risque. On va également traduire quelle est sa capacité d'épargne, quelle est sa connaissance financière. Mmh. Et à travers, en fait, ces différents éléments, ben le robot va adapter sa réponse. Voilà. Et donc, c'est vraiment très, très important. Leur vertu, c'est d'être aussi clé en main. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a répondu aux bonnes questions, en fait, ils poussent une solution très simple. On n'a pas besoin de remplir 10 000 papiers, etc. C'est simple, c'est en digital, c'est progressif. On a répondu à ces questions, on vous pousse une solution, vous l'acceptez. Et c'est en fait l'outil digital qui la met en place pour vous et qui la suit pour vous et qui vous envoie des informations. Et ça, si vous voulez, c'est globalement en fait un service rendu qui est vraiment très très important. Moi, je voulais insister sur quelque chose. On oppose souvent le digital et l'humain. Pour moi, c'est un faux problème. C'est vraiment même, je dirais, c'est factice comme opposition. on va le dire très simplement, derrière les outils que nous proposons, les sites, les applications mobiles, en permanence, il y a une cinquantaine de personnes aujourd'hui qui travaillent pour Amundi, que ce soit des développeurs, des formateurs, parce que ce sont des éléments effectivement qu'on remonte, des personnes qui rédigent et qui adaptent en permanence des contenus, c'est 50 personnes tous les jours qui travaillent. Ça, c'est la première chose. On travaille pas tout seul. On travaille avec les entreprises. Elles nous remontent des questions. On travaille avec les partenaires sociaux. Ils nous font état effectivement de questionnement des salariés. Et on travaille avec les salariés, parce que les outils qu'on propose, ils sont testés régulièrement auprès de salariés, auprès d'épargnants, d'une façon plus générale. Et ça permet d'identifier, en fait, les clés, les messages, les mots, en fait, qui sont les plus simples et qui traduisent le mieux les questionnements. Et ça, c'est également fondamental. Un petit chiffre, puisque tu aimes en citer, sur les deux dernières années, en moyenne, les sites que Amundi propose en épargne salariale, il y en a plusieurs, ils ont en fait cumulé en moyenne 40 millions de visites par an. C'est énorme.
Ah oui, c'est considérable.
Donc, c'est considérable. Et en moyenne, à chaque visite, quelqu'un reste en moyenne 9 minutes. Voilà. Alors 9 minutes, ça peut paraître court, mais en fait, quand on visite un site, c'est très long. Et quand on suit bien sûr statistiquement ce qui est regardé. C'est des choses aussi qu'on analyse avec Marie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement les thèmes en fait qui sont regardés. Alors bien sûr, chacun regarde l'état de son épargne. C'est important. On regarde ses opérations, suit ses opérations. Et toutes les opérations sont faisables en mode digital 100%, de A jusqu'à Z, très simplement. Mais on a de plus en plus de rubriques, alors à la fois autour de l'usage et l'utilité de l'épargne salariale, autour, par exemple, de tout ce qui est investissement responsable, qui sont consultés. Et je pense qu'on constate très régulièrement, en fait, l'amplitude que prennent les questions en fait, qui sont regardées et les informations qui sont recherchées. Donc tout ça, ça prouve qu'au fur et à mesure, les épargnants s'intéressent de plus en plus à leur épargne et sont de plus en plus actifs.
Et ça empare évidemment de cette épargne. C'est le robot, mais bon, d'autres dispositions focalisées sur le robot, il a finalement une vertu pédagogique.
Oui, tout à fait. Je rejoins tout à fait ce que disait Valérie. Je pense que finalement, les outils de formation comme les outils digitaux peuvent avoir cette vertu pédagogique et puis de remettre l'individu au cœur de la décision. C'est-à-dire que dans le robot advisor, ce qui est important, je vous le disais, le robot envoie des alertes, mais c'est l'individu qui choisit, oui ou non, de suivre l'alerte qui est envoyée par le robot. Ça, c'est extrêmement important. Je crois que Corinne parlait aussi de mettre les gens au cœur, d'être acteurs de leurs décisions. Ça, c'est un mécanisme d'apprentissage. On apprend en faisant, on apprend en expérimentant. Et donc, ça, c'est très, très important dans les développements du robot advising. Et ça va permettre, sans doute, à terme, que les gens s'approprient des outils et une meilleure compréhension de la manière dont ils doivent piloter leur épargne.
On est d'accord, le robot, il ne va pas vous transformer non plus en trader des marchés, on va rassurer tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, là, quand il y a la crise, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a vu les marchés qui évidemment, ont réagi. Vous n'allez pas avoir des alertes, faut tout vendre, faut tout racheter, ça ne se passe pas comme ça.
Non, parce que ça peut être
une question de se dire, oui. Est-ce que je ne vais pas devoir passer des opérations tous les trois matins, j'ai pas de temps, etc.
Oui, non, je pense que le robot propose de faire ses rebalancements réguliers, méthodiques, mais effectivement pas de jouer au trader fou, parce que ça, on est sûr que ça peut conduire à des mauvaises performances, mais c'est au contraire cette dynamique de rebalancement méthodique que le robot va proposer et que les gens vont choisir ou pas. Et donc là, ils restent quand même les maîtres de leurs décisions. Et on parlait tout à l'heure de confiance, ce qui est extrêmement important, parce que beaucoup de gens ont peur des algorithmes, pas que dans le domaine financier d'ailleurs, on le voit bien sur les voitures automatiques, etc. On n'a pas toujours très envie de faire confiance à un algorithme d'une manière générale, mais un vecteur de confiance, c'est le fait d'être maître de la décision, c'est d'être l'acteur. Si à la fin, c'est vous qui appuyez sur le bouton, ultimement, ça donne confiance et ça, c'est extrêmement important.
Et en revanche, vous voyez la différence entre finalement ceux qui vont tester le robot, les curieux, vous dites, qui vont regarder comment ça fonctionne mais ne rien faire, et ceux qui choisissent d'investir et de suivre les recommandations, finalement, là, on voit qu'il y a une nette différence.
Ah, il y a une nette différence. Oui, c'est amusant parce que, donc, je vous disais, on a regardé plusieurs populations tests, des gens qui n'ont pas été du tout exposés au robot parce que leur entreprise ne l'a pas pris, et des gens, par exemple, qui ont été exposés, qui ont été curieux, qui ont fait les premières étapes du profilage, ont regardé l'allocation, et puis finalement ne l'ont pas pris. Et on voit qu'entre ces curieux et les gens qui ont pris le robot, il y a une très forte différence de performance. Donc, oui, il y a un impact qui est vraiment lié à la dynamique de rebalancement que les curieux n'ont pas mise en place, par exemple.
Donc on entend, en creux, c'est vrai, le robot advisor, c'est une option, on peut prendre ou pas prendre au
voilà,
sein des sociétés.
On peut prendre ou pas prendre. Certaines entreprises ont choisi d'équiper effectivement les dispositifs de leurs salariés avec cet outil. D'autre part, beaucoup d'entreprises ont choisi, il faut le dire. Et pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, c'est un peu plus de 350 000 salariés chez nous qui sont intéressés effectivement au robot advisor. Et puis certains effectivement qui sont allés jusqu'au bout, qui continuent effectivement à l'utiliser dans leur gestion. Mais il a bien répondu en fait à ces deux objectifs. Le premier, c'était de permettre des simulations et justement de prendre confiance. Je pense qu'on peut dire que c'est un outil anti-émotion. Et concrètement, quand on est notamment dans des périodes troublées comme on la vit actuellement, c'est vraiment important. Et puis, c'est aussi un outil tout simplement clé en main qui permet de gérer ses actifs et ses placements extrêmement simplement.
Oui, après, on rappelle effectivement que il faut éviter... de se prendre peut-être pour un trader, on le voit avec ces marchés extrêmement volatiles. Il y a moins d'un mois, c'est vrai qu'il y avait cette crise, elle existe toujours malheureusement, mais c'est vrai que les marchés ont absorbé finalement le choc et on revient à des niveaux après un trou de marché comme on a pu connaître avec le Brexit, avec l'élection de Trump. Il ne faut pas surréagir, bien évidemment. Quelque chose d'intéressant aussi dans l'étude de l'AFG, on voit que les épargnants sont massivement sortis du fonds monétaire, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, il n'en reste que 13%, c'était 21% il y a encore quelques années, il y a 5 ans. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, Anthony, d'avoir cette... pour vous, vous êtes satisfait.
Non, mais c'est une très bonne nouvelle pour les épargnants, je pense, d'avoir... il y a eu des dispositifs de fléchage améliorés. Je pense que la gestion pilotée par défaut dans les PER est un des facteurs qui a joué. Mmh. L'application des robots dans les PE, dans les plans plus court terme, est une phase, quelque chose qui joue aussi énormément. Ce qu'il faut retenir, c'est grosso modo... Le risque principal pour une épargne longue, en fait, c'est peut-être de ne pas prendre suffisamment de risques. On revient à cette notion de préservation du pouvoir d'achat, etc. Mais c'est vraiment ce coût d'opportunité de par défaut prendre du monétaire, pas prendre aucun risque, qui est problématique pour se constituer un vrai capital dans son épargne. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour les épargnants que les allocations monétaires soient en baisse. Et c'est vraiment la vertu d'outils comme le robot ou comme la gestion pilotée dans les dispositifs d'épargne salariale et retraite.
Tiens, on revient sur, puisqu'on parle un petit peu d'allocation, on sait que les Français sont très friands également de tous ces placements qui font du bien pour la planète, en tout cas tout ce qui est ISR, ESG, donc investissement socialement responsable, ceux qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. Est-ce que là aussi, depuis cette crise sanitaire, il y a eu une accélération sur ce type de placement, Corinne Labrex?
Oui, alors c'est vrai qu'on le constate. Alors, le mouvement, il était déjà antérieur. Et il faut souligner, d'ailleurs, à cette occasion, que l'épargne salariale, d'une façon générale, était très précurseur vis-à-vis, en fait, des épargnants sur ces thématiques. Précurseur parce que la gestion d'investissement responsable, elle est vraiment installée dans les offres financières depuis longtemps, avec, d'ailleurs, des références comme celles portées par le CES, donc le comité intersyndical de l'épargne salariale, qui délivre depuis maintenant 20 ans, d'ailleurs, cette année, un label qui est très important et qui est très exigeant et auquel d'ailleurs Amundi souscrit avec une gamme complète. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'était déjà assez présent. C'était présent à travers donc l'investissement responsable, également toute la dimension solidaire qui est très parlante parce qu'elle permet effectivement de se concentrer sur des projets qui ont un caractère très concret, à la fois sociaux mais également environnementaux. Et puis c'est vrai, la crise financière en 2020, la crise sanitaire mais également en fait les soubresauts financiers, ça a sans doute joué un rôle d'accélérateur. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience un peu plus globale que finalement, la finance, l'épargne, ça pouvait aider, c'était au-delà d'un simple placement, ça pouvait aider en fait à favoriser la protection de l'environnement, également l'insertion sociale, également en fait des éléments sociétaux. Oui. Et on l'a vu, nous, d'un point de vue très concret, dans les chiffres, c'est-à-dire que le niveau des placements dans des gestions responsables ou solidaires a beaucoup augmenté. Et puis, il y a un phénomène qu'il faut souligner, c'est que la crise sanitaire, elle a également mis en valeur quelque chose d'important, c'est qu'elle a montré que ces investissements responsables et solidaires, eh bien, ils faisaient des performances tout à fait équivalentes à des investissements financiers classiques. Ouais, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas pris en défaut de performance, bien au contraire, par rapport à des investissements standards. Et ça, c'est fondamental parce que ça permet effectivement d'installer une confiance et d'installer des habitudes de placement sur ce type de sur ce type de solution financière.
On va passer, mesdames, messieurs, aux questions, si vous le voulez bien. Il y en a beaucoup, hein, puisque je pense qu'il y avait un grand nombre de connectés aujourd'hui. Une question sur. On va regarder. Excusez-moi. Différence. Tiens, c'est vrai qu'on l'a pas évoqué, Anthony. Quelle est la différence entre gestion pilotée et gestion sous mandat?
La gestion pilotée, comme je le disais, c'est une méthode d'investissement qui est appliquée en particulier dans le monde de l'épargne retraite. La gestion sous mandat, c'est donner mandat à un gestionnaire d'actifs pour gérer au mieux son allocation. Donc c'est plutôt des dispositifs qui sont proposés pour l'épargne privée via son réseau bancaire. Voilà, la gestion pilotée, encore une fois, c'est la méthode d'investissement par défaut des PER aujourd'hui.
D'accord. Une question pour mettre en place le robot sur le PEE et le PERCO. Comment on fait? Quelle est la procédure?
Alors, Corinne, en fait, il suffit de se rendre sur le site.
Oui.
Et de tout simplement... alors, il y a deux endroits. Soit vous êtes sur la page d'accueil et de toute façon, la solution vous est proposée avec chaque plan et vous cliquez sur un petit bouton qui vous emmène tout de suite sur le robot, tout simplement. Et vous pouvez également en fait vous rendre dans une fonction qui s'appelle Agir sur mon épargne, qui regroupe en fait toutes les fonctionnalités qui permettent d'agir, de placer, de verser ou de faire des arbitrages. Et vous trouvez également la fonction Robot Advisor, qui est la première d'ailleurs qui est proposée.
D'accord. On a une question de Christelle. Pouvez-vous nous dire où trouver le questionnaire permettant de définir le profil de risque de l'épargnant pour mettre en place la gestion pilotée?
Alors, en fait, eh bien, il y a tout simplement une rubrique qui s'appelle Mon profil. Mmh. Et à l'intérieur, vous allez trouver un petit bouton qui va permettre de vous définir en termes de profil épargnant. Alors, l'idée aussi sur nos sites, c'est que on est également très contextuel, c'est-à-dire qu'on repousse d'informations, des outils en fonction du temps de parcours où vous êtes. Et donc, ce profil vous est également proposé lorsque vous faites le robot ou, par exemple, quand vous intéressez à votre gestion pilotée.
Et la même Christelle nous demande où pour trouver les performances passées de la gestion pilotée en fonction du profil de risque de l'épargnant, Anthony.
Alors, depuis l'entrée en vigueur de la loi Pacte, désormais, tous les ans, l'épargnant va recevoir un relevé récapitulant en fait la performance de sa gestion pilotée depuis la mise en place en fait de son PER, avec à chaque fois donc la performance depuis la mise en place et la performance de l'année passée. Mmh. Donc ça c'est véritablement aussi une des avancées de la loi Pacte en termes de transparence et de communication sur l'épargne retraite. Après sur les performances historiques et le même type de chiffres que ce qu'on a pu monter à long terme là, c'est des choses qui peuvent être communiquées dans des conseils de surveillance, dans des formations également. Par défaut, comme chaque dispositif d'entreprise peut être différent, malgré tout, historiquement, on n'avait pas cette page de performance historique, je dirais, sur les sites. Par contre, voilà, avec la mise en place de ce relevé annuel, désormais, c'est une information qui sera diffusée à tous.
Bon, très bien. On passe à Florence qui nous demande l'une des clés d'un investissement risqué en action réussi étant d'investir régulièrement, elle met en gros régulièrement, et d'arbitrer progressivement. De quelle matière mettez-vous cela en avant dans l'outil Robo Advisor? Est-ce qu'il prend en compte d'investir régulièrement et d'arbitrer?
Oui, on a la possibilité de faire des versements réguliers, donc c'est une option qui est offerte. Mmh. Donc c'est laissé au libre choix là aussi de l'individu.
D'accord, on a la main. En fait, c'est un guide, mais ensuite on a la main de faire un peu ce qu'on veut. Nadine nous demande, proposez-vous des produits PER hors entreprise avec une gestion pilotée ou vous adressez-vous uniquement aux salariés?
Alors, chez Amundi, on propose également des PER individuels qui sont distribués dans les réseaux partenaires du groupe Amundi, donc les caisses régionales du Crédit Agricole, LCL, etc. Et en effet, on applique par défaut cette même méthode de gestion pilotée dans ces PER individuels.
Anthony a fait décidément un tabac puisque Linda demande également, doit-on déduire sur ce que vous nous disiez tout à l'heure que la gestion pilotée doit être plus conseillée à des salariés entre 20 et 50 ans qu'à des salariés approchant du départ en retraite avec, désensibilisation.
c'est une question très pertinente parce qu'en effet, et j'ai insisté là-dessus, mais enfin, c'est vraiment un élément capital. La méthode, elle est extrêmement efficace à long terme, donc à plus de 15 ans, clairement. Donc oui, pour répondre à la question, il faut comprendre ça. Si on est sur une épargne plus courte, alors soit on a déjà accumulé et on était potentiellement dans une gestion pilotée ou avec une allocation adaptée sur les 5-10 dernières années. Et là, on est peut-être à 10 ans de sa retraite. Si on a accumulé ce capital et que désormais, on est en train de protéger ce qu'on a pu accumuler, la gestion pilotée, elle reste adaptée jusqu'à la retraite. Ça, c'est pas le sujet. Par contre, ce qui n'est pas adapté, c'est d'être à 5 ans de sa retraite et d'activer une gestion pilotée. Ça, c'est pas adapté. Dans ce cas-là, c'est clair que sur des horizons relativement courts, il vaut mieux utiliser un robo-advisor. Il vaut mieux construire son allocation soi-même si on est à l'aise avec les notions financières. Mais c'est là, je dirais, la complémentarité d'une gestion pilotée dans une épargne longue et d'un robo-advisor sur une épargne un petit peu plus courte. C'est que le robo-advisor, il s'adapte plus facilement à la conjoncture. Il est vraiment bien pour gérer des horizons d'une épargne salariale et non d'une épargne retraite, ou alors d'un épargnant pour la retraite, mais qui est relativement proche de sa date de retraite.
Non, mais, et puis on peut panacher, on peut aussi...
Et si je peux me permettre juste un complément, ce qui est vraiment capital aussi, et je pense qu'il n'est pas forcément fait aujourd'hui dans les PER, c'est de potentiellement modifier son horizon d'investissement. C'est-à-dire que par défaut, ça va être calibré à la date de la retraite. Mais beaucoup d'épargnants restent en fait investis dans leur PER après leur retraite parce qu'ils vont ponctionner progressivement du capital et ils ne souhaitent pas libérer le capital en une fois. Et dans ce cas-là, ce qui est vraiment pertinent, c'est de prolonger son horizon d'investissement 10 ans, voire 15 ans après la retraite, parce que là, on est certain d'avoir une allocation qui est cohérente avec la durée d'investissement.
Corinne, c'est vrai que vous nous aviez dit, les principales démarches de placement des salariés, c'est bien évidemment la retraite, on en parle beaucoup avec retraite complémentaire, l'achat de la résidence principale, et puis également une réserve d'argent, bien évidemment.
Tout à fait. Donc, quand on regarde la typologie en fait, des motifs, des motifs d'épargne. Bon, la retraite sort évidemment de façon importante, ne serait-ce que parce que des dispositifs lui sont directement dévolus. Donc, par définition, c'est quelque chose de fondamental. Mais au-delà de la simple réserve d'argent, qui pourrait constituer un motif, je dirais, standard et à peu près universel, on voit bien de plus en plus se dessiner des vrais projets construits. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est pour ça aussi qu'on souhaite accompagner les salariés. Donc, l'achat de la résidence principale, c'est un thème classique. La plupart des Français sont concernés et il faut savoir que l'épargne salariale et retraite, d'ailleurs, puisque on apprend en masse, c'est quelque chose vraiment de fondamental. Et pour certains salariés, l'essentiel de l'apport est constitué par ce type d'épargne. Donc, dans la vie de chaque individu, c'est un moment clé et donc c'est un moment où là aussi on essaye d'accompagner. Au-delà, et quand on a passé parfois un certain âge, quand la quarantaine est un peu installée, par exemple, et qu'on a pu faire ce type d'acquisition, ce type de projet, il reste beaucoup d'autres projets. On pense par exemple à l'éducation des enfants, qui peut effectivement nécessiter des investissements, ou plus globalement, une épargne de précaution à des moments professionnels particuliers. Donc, tous ces projets nécessitent d'être accompagnés. Et une des vertus également du robot, puisqu'on revient dessus, c'est d'identifier ces projets. C'est-à-dire quand on démarre le robot, on identifie le projet, on essaye de lui donner une date clé. Et ça permet également, du coup, de définir l'allocation adéquate.
Il a un petit nom, le robot ? Non, parce que certains...
Ah oui, alors il avait un petit nom d'origine. Et puis finalement...
C'est quoi, pardon ?
En fait, au départ, parce que c'est sa fonction première, il s'appelait diversification d'épargne et c'est devenu DIVEP en langage amundien.
Voilà. DIVEP, ouais,
mais on l'appelait le robot advisor et en fait il est tout simplement c'est un petit robot charmant voilà et il est matérialisé par une petite image qui est communiquée de façon régulière.
Qu'on peut voir sur
mais on peut faire peut-être un concours et moi je propose qu'on fasse un concours et si vous avez des idées pour lui donner un nom, c'est très volontiers.
Et ben voilà,
toutes les idées.
C'est lancé et on aura pour la prochaine semaine de l'épargne salariale, on aura peut-être la réponse, ou en tout cas plein d'idées. On met la communauté à contribution. Allez, il nous reste très peu de temps. On prend des questions en rafale et vous me répondez rapidement, si vous le pouvez. Peut-on disposer donc du robot advisor ? Je pense que c'est oui, il faut demander à vos équipes.
Oui, si c'est ouvert dans le cadre de votre entreprise, vous pouvez en disposer et vous pouvez en fait l'activer à tout moment.
D'accord, ça c'était une question de Ludovic. Hélène nous dit, dans le dispositif Amundi TC, je pense que c'est teneur de compte, mais ne gère pas les actifs, le robot advisor est-il accessible dans ce cas ?
Alors, normalement, si vous êtes sur la plateforme Amundi, ex-tenue de compte, mais ESR, c'est accessible. Après, là, je dirais, il faut répondre au cas par cas.
À voir, au cas par cas.
La situation de chacun.
Une question large de Ludovic également. Est-il possible de positionner ses propres fonds de son entreprise en PE, PEG, Percol, Péréo ? pas évident. Je ne sais pas si c'est propre fonds ou les fonds propres de son entreprise.
Les fonds propres. Là, les fonds qui sont listés dans les dispositifs, de toute façon, sont les fonds qui sont mentionnés au règlement du PER de l'entreprise, par exemple. Donc, non, c'est véritablement des véhicules qui sont listés pour faire partie du plan d'épargne salariale ou du plan d'épargne retraite.
On rappelle qu'Amundi s'adresse à tout type d'entreprise, hein, de la plus grosse CAC 40 comme à la PME.
Tout à fait. Et chaque entreprise est libre, en fait, de sélectionner et de choisir les fonds qui vont rentrer dans les dispositifs. On peut avoir en fait des fonds qu'on appelle multi-entreprises, hein, qui sont des fonds qui sont utilisés par plusieurs entreprises, comme leur nom l'indique. Et vous avez des entreprises qui choisissent d'avoir des fonds dédiés, qui ont été définis voilà, selon des critères qu'elles ont elles-mêmes déterminés, souvent d'ailleurs en dialogue avec les partenaires sociaux. Donc les gammes peuvent être assez différentes, mais pour autant, en moyenne, il y a entre 5 et 8 fonds par gamme qui est proposée dans chaque dispositif d'entreprise.
Le coût du robot pour l'entreprise, nous demande Serge.
Il n'y en a pas. C'est gratuit pour l'entreprise et c'est gratuit pour les épargnants.
Et enfin, Nathalie, pouvez-vous nous donner un contact pour bénéficier de la formation ? On s'adresse à vous, Valérie, directement.
Alors, sur le site, vous pouvez trouver l'adresse générique pour contacter l'équipe formation.
D'accord. Enfin, ce sera formation...
C'est adhoc.formation, me semble-t-il, mais...
Voilà. Mais on pourra la redonner.
On la redonnera
à tous les participants.
Sans problème.
Parfait. Le site Amundi vient d'être refondu, pardon. Alors, site Amundi épargne salariale et retraite.
Effectivement, la partie publique, hein, c'est la partie accessible sans code et vient d'être refondue. Il y a également tout un site sécurisé qui permet de faire les transactions, qui lui-même a été refondu il y a déjà 2-3 ans, mais qui est en évolution permanente puisqu'on l'optimise vraiment au quotidien. Et la partie publique, oui, elle a été refondue il y a quelques semaines, avec un objectif principal, c'était de donner encore plus d'informations, notamment sur justement les placements, les possibilités de placement, l'investissement responsable, et puis d'être au cœur de l'actualité. Donc ce qu'on a voulu faire avec ce site, c'est que ce soit un site extrêmement dynamique, et que lorsque l'épargnant s'y rend, il peut trouver donc de façon très accessible, puisqu'il n'y a pas besoin de ses codes, hein, l'information est délivrée tout de suite, toutes les informations et toute l'actualité sur l'épargne salariale, mais également sur les marchés financiers et les placements. Et je dois dire qu'on était très heureux de l'ouvrir il y a quelques semaines, puisque ça nous a permis de communiquer de façon très efficace et très régulière sur justement ce qui se passe en Ukraine, ce qu'il fallait faire en termes de placement, pourquoi il ne fallait pas s'affoler et quels étaient les fondamentaux à avoir en tête quand on est épargnant.
Voilà. Et vous avez bien fait de rassurer, effectivement, c'est important de prendre la parole dans ces temps un petit peu troublés, surtout quand son épargne est en jeu, bien évidemment. Voilà, c'était le web ESR, le webinaire « Comment aider chaque salarié à devenir un véritable épargnant ». J'espère qu'on vous a donné quelques clés. En tout cas, vous avez été très nombreux à réagir et à nous suivre. Un grand merci à nos invités du jour, à Valérie Bardoux, responsable formation, épargne salariale et retraite, Marie Brière, responsable du Centre de recherche aux investisseurs, Anthony Lapeyre, responsable gestion long terme et solutions retraite, qui a fait un tabac sur Internet, énormément de questions. Il y en avait encore, mais on n'a pas tout pris. Et puis Corinne Labourex, directrice marketing épargne salariale et retraite. Un grand merci à vous quatre, à nos quatre experts. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Web ESR. À très bientôt.
Web ESR, une conférence en ligne proposée par Amundi, épargne salariale et retraite. Comment aider chaque salarié à devenir un véritable épargnant. Une conférence animée par Fabrice Coustet.